Bonjour, vous êtes bien sur IDFM Radio pour toute la culture que j'aime. Aujourd'hui, je vais parler théâtre et jazz. On va entendre pas mal de musique jazz, mais tout d'abord, je reçois Ferdinand Barbet. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes metteur en scène. Alors, nous allons parler de l'art de ne pas dire, un seul en scène au Théâtre Saint-Georges jusqu'au 30 décembre. Ferdinand Barbet, alors, un mot avant de vous poser ma première question, un mot, le pitch de ce seul en scène. C'est une fiction.
Eh bien, l'histoire de ce seul en scène qui s'appelle L'art de ne pas dire, c'est l'histoire d'un ancien conseiller en communication d'un président fictionnel qui ressemble au président qu'on a pu connaître en France ces dernières années, mais qui ne l'est pas réellement. On est dans une dimension un petit peu parallèle. Et cet ancien conseiller en communication du président a été renvoyé pour une sordide histoire de frais de coiffure exorbitants. Et comme il a été renvoyé, il décide de se venger du président. Pour se venger du président, il décide de créer une conférence dans laquelle il dénonce, il raconte tous les mécanismes de manipulation des masses que le gouvernement a employé, notamment les mécanismes liés au langage, à la rhétorique et les techniques de manipulation, voilà, lié au langage.
En politique.
Tout à fait.
Alors, ma première question. L'acteur qui joue donc ce personnage, l'acteur s'appelle Clément Viktorovitch, ça c'est son vrai nom, d'accord. Il a un passé extrêmement intéressant, ce Clément Viktorovitch. D'abord, c'est la première fois, d'accord, qu'il monte sur scène, qu'il fait du théâtre, qu'il fait un seul en scène. Et ensuite, c'est un expert. Il a je ne sais combien de distinctions. Il est docteur en sciences politiques. Il est enseignant à Sciences Po. Il a été chroniqueur sur CNews, Canal+, France Info, ITV. Je vais pas tout dire, mais c'est tellement énorme. Il est expert en analyse du langage politique, créateur de contenu. Très populaire sur Internet, hein. Il avait quand même une chaîne Twitch, hein. C'est sa première fois sur un plateau de théâtre. Alors, question tout de suite, l'histoire est-elle une fiction ou est-ce que ce n'est pas tiré de son expérience? Parce que je crois qu'il a œuvré aux côtés d'Emmanuel Macron.
Alors, c'est totalement fictif. En fait, vous n'êtes pas la première spectatrice à se poser la question. Mais il se trouve que non, il n'a jamais œuvré aux côtés d'Emmanuel Macron, il n'a jamais été conseiller. Cependant, comme il est docteur en sciences politiques et qu'il a été chroniqueur pendant ces 10-15 dernières années, il a suivi de très près l'actualité et notamment les discours à l'Assemblée et puis les prises de parole en public du gouvernement. Du coup, il les connaît très bien et puis ça a été son sujet d'étude pendant son doctorat. Mais non, en tout cas, c'est vraiment un personnage totalement inventé dont on imagine les traits et qui n'a rien à voir avec Clément Viktorovitch en soi. Ouais.
C'est incroyable parce que cet expert donc en analyse du langage politique, décide de monter sur scène, de créer un spectacle avec vous, d'écrire ce spectacle, l'art de ne pas dire, puisque je rappelle, vous êtes metteur en scène, mais également co-auteur. Alors, oui. comment s'est fait cette rencontre?
Eh bien, en fait, Clément voulait faire ce spectacle et depuis longtemps déjà, il avait le désir de monter sur scène, de créer une pièce. Et il a rencontré d'abord un producteur qui s'appelle Gilles Matana et avec qui ils ont cherché comment concevoir cet objet. Mais il leur manquait un petit peu quelqu'un qui venait du théâtre, qui savait écrire. Moi, je suis dramaturge à la base et donc il leur manquait quelqu'un qui savait écrire pour le théâtre parce que Clément est auteur déjà d'essais, de livres théoriques, mais il avait jamais écrit pour la scène. Donc moi j'intervenais un peu dans ce cadre-là, et puis il s'agissait aussi de proposer autre chose qu'une stricte conférence, comme Clément le fait déjà dans sa vie professionnelle. On voulait faire une œuvre sensible qui puisse parler aux gens au-delà du strict intellectualisme. Et donc ils ont cherché quelqu'un qui pouvait les aider à faire ça, et il se trouve qu'ils m'ont appelé. Et pendant 2 ans, on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés et on a conceptualisé, designé tout le projet vraiment ensemble du début jusqu'à la fin.
Oui, parce que vous venez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dramaturge, vous venez du théâtre classique.
Oui, oui.
Hein, pour certaines de vos créations. Et là, en effet, vous vous lancez dans quelque chose d'un peu différent. Engagé, non, mais j'allais dire sociétal.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est pas un spectacle militant. Nous, on ne cesse de le répéter parce qu'en fait, on ne donne pas de consignes de vote. On ne dit pas quoi penser dans notre thèse sur la façon dont le pays est gouverné aujourd'hui. Simplement, on essaye simplement de mettre la lumière sur certains rouages, essayer de révéler des choses que tout le monde voit, en fait, que tout le monde est capable de voir, mais dont parfois on ignore si ces choses-là ont été portées par d'autres, si ces choses-là ont un nom. En fait, c'est un spectacle qui a été imaginé à la fois pour parler de politique, mais aussi pour dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls à voir ce qu'ils voient, que parfois ce qui leur paraît un petit peu dissonant dans ce qu'ils sont supposés voir et entendre, eh bien ils ne sont pas les seuls à ressentir cette dissonance.
Oui.
Et nous on essaye de revenir sur cette dissonance là justement.
Pardon, excusez-moi. Oui. Allez-y, continuez.
Pardon, c'est juste que ce que j'appelle dissonance, je me rends compte que ça peut être un peu trouble, mais c'est l'écart qu'il y a entre ce que l'on entend et ce que nous on constate. En tant que citoyen, voilà.
Le spectacle, en effet, vous venez de le dire, montre que souvent en politique, les mots sont vidés de leur contenu et que nous, l'opinion, enfin le public, le tout à chacun, on a du mal à se faire une opinion. Mais n'est-ce pas là un peu la singularité de la plupart des communications aujourd'hui, que ce soit en entreprise, sur les réseaux, dans les médias, dans les cercles sociaux et même en amis ou en famille, est-ce qu'il n'y a pas justement des mots vidés de leur vrai contenu?
Eh bien, je pense que vous avez raison et je crois d'ailleurs que c'est la thèse que l'on défend dans L'Art de ne pas dire, dans ce spectacle, parce qu'en réalité, en travaillant sur ce sujet pendant 2 ans avec Clément Viktorovitch, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, au-delà de parler de la politique, du langage en politique, en fait, on se rend compte qu'on parle d'une époque. C'est une façon, effectivement, dont l'incompréhension est devenue un marché, est devenue un système. Le trouble est utilisé à l'escient de ceux qui possèdent la parole, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui dominent en réalité. Et ça, c'est un mécanisme qu'on peut observer, je pense, à toutes les strates, toutes les sphères de notre vie, quoi.
Ouais, mais il faut lutter d'ailleurs contre ça et rester dans l'authenticité. Alors, côté mise en scène, Ferdinand Barbet, mise en scène assez, ils ont un seul en scène, je disais tout à l'heure, assez sobre, hein, le personnage. Oui. Habillé jean blanc, chemise blanche, ceinture marron impeccable assortie aux chaussures, décor grande bande blanc noir horizontal. Et alors vous le personnage, finalement il y a des interactions avec le public, hein. Je pense notamment lorsqu'il demande, alors on ne dit pas en langage politique employé, mais et là, voilà,
c'est le public de répondre.
Un collaborateur. On ne dit pas les riches, mais les plus favorisés. Voilà. Alors, ouais. Comment s'est fait la mise en scène?
Eh bien, à la base, en fait, la mise en scène, moi, ce que j'appelle mise en scène, c'est la conceptualisation générale du spectacle. En effet, donc, on va partir même de l'idée originelle du spectacle. C'était de l'appeler, plutôt que L'Art de ne pas dire, on voulait l'appeler la subversion du langage. Et les exemples que vous avez cités, là, par exemple, on ne dit plus les riches, mais les citoyens les plus favorisés, on est vraiment là-dedans. C'est l'idée que aujourd'hui, un mot est subverti, à partir du moment où il veut dire autre chose que son sens originel. Et c'est vraiment ce qu'on observe en observant la politique aujourd'hui. Alors, la mise en scène et le processus d'écriture, on a voulu créer des jeux comme ça où le public participe, parce que notre désir, c'était que en fait, ce soit un spectacle le plus horizontal possible, où les gens se sentent aussi forts et aussi intelligents que la personne qui est sur scène, et donc que le public se sente capable de raisonner, de se mettre en réflexion en même temps et au même endroit que l'acteur et que l'écriture. Donc, on fait participer les gens pour d'une part parce que ça crée un intérêt théâtral, mais aussi parce que on donne tout de suite la main au spectateur pour qu'il devienne actif dans sa réflexion. C'était ça vraiment le but initial. On est tous citoyens, citoyennes, et on est tous capables de raisonner, d'analyser soi-même et de construire une opinion à partir du moment où on nous donne les outils pour le faire et on nous donne l'occasion de le faire.
Ouais.
C'est ça vraiment le parti pris de la création de ces jeux, de cette interactivité en général avec le public.
Et on voit comment le langage, en effet, les mots utilisés peuvent nous induire dans telle ou nous conduire en tout cas dans telle ou telle direction. Donc je rappelle, hein, nous parlons de l'art de ne pas dire. Hein, c'est un seul en scène au Théâtre Saint-Georges jusqu'à fin décembre. 3 mois à Paris, 30 dates de tournée. C'est ça, je me trompe pas, Ferdinand ?
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Donc un carton
jusqu'à décembre et puis en tournée un petit peu partout en France cette année, tout à fait.
Alors là quand j'y étais, je me suis posé cette question parce que Clément, donc Viktorovitch, hein, qui joue le personnage principal et expert, hein, en langage, enseignant à Sciences Po, il a d'ailleurs écrit un ouvrage, hein, le pouvoir rhétorique.
Oui.
Il y a 4-5 ans au Seuil, hein, qui a fait 100 000 ventes. Il fait ça le comble. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'élèves de Sciences Po, non ? Je me trompe ?
Alors oui, c'est vrai qu'il est professeur à Sciences Po et que certains de ses élèves viennent le voir, en effet. Mais ce que j'observe surtout, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Et alors, je ne pense pas qu'ils soient tous venus de Sciences Po, mais je crois que c'est quelqu'un qui a su s'adresser aussi à différents publics. Et on a toutes les tranches d'âge qui sont représentées. Je trouve que c'est très encourageant. Et c'est quelque chose aussi qui change par rapport au public habituel qu'on observe dans les salles de théâtre aujourd'hui, qui est un public qui a du mal à se rajeunir. Et donc, avec ce spectacle-là, on a la chance de voir les jeunes revenir au théâtre, et je trouve ça très, très lumineux, c'est très encourageant.
Oui.
Ils s'intéressent en plus aux questions politiques, aux questions de libre arbitre, de d'empowerment, d'avoir les outils de critique et pour se forger soi-même une opinion. C'est quand même vraiment encourageant de savoir que les jeunes font ça.
Alors, l'art de ne pas dire, c'est une proposition théâtrale très inédite, mais il y a quand même une dimension presque politique. Est-ce que j'allais dire la représentation de la politique à sa place sur un plateau de théâtre?
Eh bien, moi je pense que c'est même au cœur de la question théâtrale. Je fais ce métier depuis 15 ans. Et quand je faisais mes études déjà, quand on étudiait le théâtre grec, le théâtre athénien, on observait les Euripides, Eschyle, Aristophane, qui écrivaient déjà des pièces qui proposaient un miroir politique à leur propre gouvernement, à la démocratie athénienne. Je pense que c'est aux racines même du théâtre que de proposer une critique, une observation, et de prévenir des glissements, des dangers que peuvent prendre certaines mesures politiques. Je pense que le théâtre est aussi là pour ça. Je pense que ça fait partie vraiment de ses fondamentaux de proposer ça.
Alors,
on est dans la continuité même du théâtre grec, je crois.
Oui, ouais. En tout cas, c'est une représentation de faits ayant existé ou non, mais de toute façon, la pièce, le spectacle est une fiction. Voilà. Hein. Ça, vous avez
Absolument.
Bien imaginé ce personnage ancien chargé de communication de Macron.
Tout à fait.
Voilà. Alors, pour revenir un peu sur la carrière de Clément Viktorovitch, donc je le disais tout à l'heure, c'est son premier spectacle, la première fois qu'il monte sur le plateau d'un théâtre. Bon, il a peut-être d'autres, alors c'est peut-être un peu tôt, mais d'autres projets théâtraux.
Non, c'est la première et seule pièce de théâtre à laquelle il participe. Et c'est pour ça que la création a été aussi longue, parce que en 2 ans il a fallu aussi apprendre à jouer, apprendre à devenir acteur, à avoir un petit peu des sensations sur le plateau qu'il ne connaissait pas. C'est aussi ça le côté inédit de ce spectacle.
Très bien. Donc je rappelle les dates du spectacle, c'est jusqu'à fin décembre au Théâtre Saint-Georges, les dimanches et lundis.
À 19h.
Vous pouvez citer peut-être tous les collaborateurs sur le spectacle.
Alors, le spectacle en lumière, a été produit par Gilles Matana.
Oui. Mm-hmm.
La création sonore a été faite par Hugo Sampé. Création lumière par Gauthier Devoucoux. Et le design du costume par Augustin Roland.
Très bien. Bien, merci beaucoup, Ferdinand. Quant à vous, vous avez d'autres projets en théâtre, que ce soit théâtre classique, contemporain?
Eh bien, aujourd'hui, impossible de voir une autre de mes pièces en tournée, mais des projets à venir, des spectacles en création seulement.
Très bien, oui, parce que j'ai pas parlé de toute votre carrière, mais vous êtes comédien et vous avez écrit une quinzaine de livres, enfin peut-être un peu moins, mais en tout cas vous avez mis en scène une quinzaine de spectacles et écrit beaucoup de textes.
Oui, tout autant, ouais, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, Ferdinand. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée. Donc c'est l'art de ne pas dire. Au Théâtre Saint-Georges, et c'est jusqu'à fin décembre. What a day, and this has been a rather bad mood to me. Well, that's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. But that's almost like being in love. Oh, the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. From the way that I feel when the bell starts to blow, I would sway, I was falling, sway, it was falling. Well, it's almost like being in love.
Say it was falling, well, it's almost like being in love. Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Oui, vous êtes toujours sur IDFM Radio avec toute la culture que j'aime. Je continue plutôt côté jazz et je reçois Maria Rodriguez. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler du fameux festival de jazz à Paris et région parisienne, festival Jazz sur scène, qui se tient jusqu'au 26 octobre. Et je voudrais vraiment faire la lumière sur ce festival, car il est très intéressant et il contribue à faire connaître le jazz, faire découvrir dans 25 clubs de Paris et la région, avec 200 concerts. Tout ça pour un prix modique, un pass. Maria, on vient d'écouter un extrait de Flore, Flore Benguigui, la chanteuse. Voilà, alors avant elle faisait partie du groupe L'Impératrice, mais bon, elle vient de refonder un nouveau groupe. Donc elle sera en concert pour un hommage à Nat King Cole samedi. Samedi à 19h30 au Baiser Salé. Alors, il y a beaucoup d'autres concerts dont nous pourrions parler, Maria. Mais un mot quand même sur Flore, là, qui joue le 19. Est-ce qu'elle est toujours dans la mouvance pop, pop disco?
Alors, Flore, je l'ai connue au Festival d'Avignon il y a très très longtemps. C'est un projet jazz qu'elle adore. Qu'elle porte depuis au moins 10 ans et qu'elle joue au Baiser Salé une fois tous les 2 mois depuis, je sais plus exactement, mais 6-7 ans. Donc c'était avant L'Impératrice. Le jazz, c'est son premier amour, je crois.
D'accord. Donc
ensuite, je crois qu'elle vient d'arrêter L'Impératrice, mais je ne crois pas qu'elle ait reformé un nouveau groupe. Ce groupe-là, en tout cas, il existe depuis bien avant L'Impératrice, en fait.
Très bien. Et là, c'est plus dans la mouvance jazz, vous diriez, ou pop?
C'est jazz, oui. C'est l'hommage à Nat King Cole, c'est jazzy à mort.
C'est très jazzy, c'est très... Donc, c'est samedi à 19h30 au Baiser Salé. Est-ce qu'il reste des places?
Oui. Non, c'est complet, Il y a 2 concerts à 20h et 22h, mais c'est complet sur les 2.
C'est complet, d'accord. Alors écoutez, Maria, un mot du festival. Donc ce festival, comme je disais tout à l'heure, il a lieu dans 25 clubs, 200 concerts. Il y aura mais des découvertes et des pointures en jazz incroyables. Le pass, alors comment ça se passe justement? Si les auditeurs veulent venir, il faut se procurer un pass?
Oui, sur le site parisjazzclub.net, vous achetez un pass pour 40 euros et vous avez accès à 3 concerts dans 3 clubs différents parce que nous avons créé ce pass pour que les gens découvrent les clubs à Paris, la richesse du jazz à Paris actuellement. Donc, vous achetez votre pass et ensuite, on vous propose de choisir parmi tous les concerts jusqu'à la fin du festival pour la modique somme de 40 euros.
C'est incroyable, ça fait le concert à 13 euros. Voilà. On a tellement besoin en ce moment, de moments comme ça, dans des clubs où l'ambiance est toujours chaleureuse, on peut prendre un verre. Et en plus, dans des clubs incroyables comme le Duc, le Baiser Salé, le Sunset, le Sunside, mais également en région, à Courbevoie.
Oui, absolument. Il y a le Pan Piper aussi, il y a la scène musicale, il y a le Triton, il y a beaucoup plus de clubs que simplement les clubs de la rue de Lombard. Il y a
le Saint-Denis,
le 38 Rives, il y a vraiment beaucoup, tous les clubs de Paris en fait.
Oui, la cave du jazz.
Oui, le Triton, le Barbizon qui est un nouveau club depuis quelques années, plein d'endroits magnifiques où la musique live vit tous les jours.
Alors parmi les moments phares, Maria, qu'est-ce que j'ai repéré? On va en donner peut-être 2-3
autres. Le moment phare, c'est aujourd'hui.
Oui.
Avec les showcases que nous avons choisi 18 groupes. Et il joue dans rue des Lombards, dans les 4 clubs. D'accord. De la rue des Lombards. Très bien. La taverne Guinness. Et ils font quatre concerts chaque. Il y a quatre groupes par club. Et c'est surtout à la destination des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de professionnels qui sont invités à venir découvrir ces groupes. Et ensuite, c'est gratuit pour le public.
D'accord. On va surtout parler des concerts à partir de samedi. Hein. Moi, j'ai repéré, par exemple, lundi 21 octobre, au 38 Rives, Mathieu Scala et en quartet. Mathieu Scala, donc au 38 Rives, 38 rue de Rivoli. J'ai repéré également le trio Anae, mercredi 23, au Sunset.
Oui,
je vous en dis un ou deux autres.
C'est des jeunes groupes découverts rue des Lombards.
Oui. Laurent Coq, mercredi également au Sunside.
Magnifique pianiste. Voilà. Avec son nouveau projet.
Oui. Toujours au 38 Rives, Richard Sears Quartet.
Oui, qui est un jeune musicien qui commence à faire vraiment parler de lui dans le monde du jazz.
Là, c'est toujours au 38 Rives. Il reste de la place pour celui-ci. C'est le 24.
Ah, je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, il faut aller sur le site du 38 Rives directement.
Très bien.
Nous ne verrons pas la billetterie dans les clubs.
Très bien. On va faire une petite pause musicale, Maria. On va écouter le fameux duo jazz Mario Canonge Zénino. Marion Canonge, pas pianiste martiniquais. Michel Zénino, contrebassiste marseillais. On écoute et je vous reprends tout de suite.
Qui joue au Baiser Salé depuis 19 ans tous les mercredis.
Ouais. Et d'ailleurs, ils seront en concert le mercredi 23. Au Baiser Salé à 19h, on les écoute.
Très bien.
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Je reçois, donc je continue mon interview avec Maria Rodriguez qui nous parle jazz aujourd'hui. Et oui, une émission un peu jazz, festival Jazz sur scène. C'est jusqu'au 26 octobre. L'occasion vraiment, vraiment, pendant ces vacances d'ailleurs, puisque c'est les vacances de la Toussaint, de découvrir des lieux incroyables avec des musiciens de renommée. On parlait tout à l'heure de moments un peu phares, hein, Maria. J'ai repéré aussi au Sunside Jeanne Michard le 25 octobre.
C'est notre saxophoniste qui a été découverte il y a à peu près 4-5 ans et qui fait une carrière incroyable.
Oui, elle est vraiment de plus en plus demandée là, sur la scène.
Absolument, c'est vraiment une saxophoniste incroyable et un être humain formidable.
Ouais. On vient d'écouter il y a quelques minutes le duo, fameux duo Mario Canonge, Michel Zénino en jazz. Ils seront donc là le mercredi 23 à 19h. Un mot, alors, sur ce... ils sont souvent en duo.
Alors, ce duo joue au Baiser Salé depuis bientôt 20 ans, en fait, tous les mercredis, sauf de temps en temps où ils ne sont pas là, mais c'est très rare. Un mercredi, il y a 20 ans, Mario Canonge est venu me voir et il m'a dit « On va jouer tous les mercredis avec Michel Zénino, on va faire des standards sur l'instant, on va rien préparer, on va improviser parce que c'est ça le jazz et que j'ai envie de jouer ça. » Et voilà, depuis, ils jouent tous les mercredis. Ils viennent de sortir leur album Paraphrase dont la release party s'est faite au Baiser Salé samedi dernier, avec un gros succès, et il continue donc tous les mercredis au Baiser Salé, sauf aujourd'hui, sauf le 16, parce que c'est les showcases.
D'accord, donc on les retrouvera mercredi d'après, le 23 octobre. Leur répertoire, est-ce qu'ils sont plutôt dans la mouvance grand classique du jazz ou influence caribéenne, latine?
Non, pas du tout. Là, c'est vraiment les standards revisités par Mario et Michel, mais le plus classique possible, en fait.
C'est ça. Très bien. D'accord. On va écouter un autre morceau. Alors là, on va plutôt aller du côté de Massenet. French Connection, toujours dans le cadre du festival Jazz sur scène. Massenet, ce sera donc le dernier samedi du festival, samedi 26, 19h30, toujours au Baiser Salé. Et on va plutôt là de côté de la musique sénégalaise. On écoute.
Absolument.
Fan nga si gëna mëna dundu dundu fi wala fe fan nga si gëna mëna dundu dundu fi wala fe wa bitim rew ngi ñu ñe dañu gis ni fi la jam ëppe De malante big di kalante bi Ah, kori de tabaskini Mui nakar di bane Dekando hi jokanga koyoga Su sede nyu fatu Tal andu churai Su tange nyu geno fehlu chiker ginan ataya Woy sama dundin ci kergi ni xuma Fange sigana mana dundu dundu fi wala fai fange sigana mana dundu dundu fi wala fai. Ewa kau dan kau ku fadem sembir dey kau lumeti meti dingal job muneu mu bare dayone why fimneling ci hamul boy lungen di dam wigan jafe si sedu butar. La jambar khayri daw dakh wal budaye baga bes ñow mo ñi bi kan lay don fan ga si gëna mana dundu dundu fi wala fen fan ga si gëna mana dundu dundu fi wala fe
fe fi fi fe fi fe fe fi fi fe boy ja
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Oui, vous êtes toujours sur IDFM Radio avec Maria Rodriguez qui nous parle du festival Jazz sur scène. Maria, vous êtes toujours là?
Oui, bien sûr.
On vient d'entendre Massané French Connection qui joue samedi 26 à 19h30.
C'est ça, oui.
Et 21h30 au Baiser Salé, toujours dans le cadre, je le disais, du festival. Les places sont à 13 €, hein, si nos auditeurs prennent le pass.
Absolument, oui.
Voilà, vous nous parlez un peu de cette musique, musique mélodieuse, musique sénégalaise.
Oui, alors Massané, c'est une chanteuse qui est en France depuis quelques années, hein. Elle fait une musique qui est une rencontre inattendue avec le groupe de musiciens de jazz parisien autour d'un répertoire, mêlant ses compositions aux grands standards de jazz et de la pop. Voilà, ça c'est
très
ce que je connais. Moi j'ai été, elle a déjà joué au Baiser Salé il y a à peu près un an, et j'avoue qu'elle m'a enchantée avec sa voix très 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 africaine, mais en même temps avec des compositions pop, un peu jazz, et très étonnante.
Très bien, elle sera entourée de 5 musiciens?
Absolument, avec Véronique Fernand au sax, Michel Sautrel à la guitare, Rémi Grenier à la basse et Patrick Goujon à la batterie.
Très bien, et Massené, elle s'accompagne également à la guitare?
Absolument.
Très bien, merci. Merci beaucoup Maria Rodriguez de nous avoir parlé de jazz sur scène. Vous nous rappelez juste les conditions hein, pour obtenir le pass.
Alors il faut aller sur le site de parisjazzclub.net, choisir son pass, acheter le pass et ensuite choisir 3 concerts dans la liste des concerts qui vous sont proposés. C'est dans 3 endroits différents pour vous obliger à découvrir des clubs que vous ne connaîtriez pas.
très bien. Est-ce que, donc c'est, vous avez dit 40 euros pour trois concerts.
40 euros, c'est ça. Voilà. Il y a aussi une offre pour les étudiants de moins de 26 ans à 10 euros.
10 euros le pass.
Voilà. Non, c'est pas un pass, là. C'est une place.
D'accord.
Pour les moins de 26 ans, pour les étudiants.
Très bien. Voilà, ben ça c'est vraiment vraiment intéressant. Il faut créer un compte, hein, je suppose, hein, sur Paris Jazz Club.
Sur Paris Jazz, oui, il faut créer un compte au moment où vous achetez, bien sûr. Il faut mettre votre nom parce qu'il faut qu'on vous envoie un mail pour vous donner le pour vous envoyer le pass.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Maria. Et donc, on encourage vraiment nos auditeurs à découvrir le jazz. On a besoin en ce moment de se retrouver dans les clubs
Merci
de jazz
beaucoup.
Autour d'une boisson ou d'une planche. Merci, au revoir.
Merci
Maria.
Bien, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. J'ai coutume de finir mon émission par mes coups de cœur. Alors là, ça va se porter donc sur le cinéma. Mes coups de cœur cinéma, c'est au cinéma d'Anguin, hein, au CDA. Vous avez samedi, donc demain à 14h, Goodbye Monster. Donc c'est un film d'1h30 pour un jeune public, hein, des 6 ans. Voilà, en VF, un film chinois d'ailleurs, film de 2022, Goodbye Monster, samedi à 14h. Vous avez également, alors demain à 18h, ça je vous le recommande vraiment, Les Graines du Figuier Sauvage, à 18h, c'est un film iranien. Qui parle d'une Iman, hein, qui vient d'être promu juge d'instruction au tribunal, et il y a un immense mouvement de protestation qui secoue le pays, et il va sombrer dans une paranoïa, détruire sa famille. Prix spécial du jury à Cannes, ça c'est demain à 18h. Alors d'autres coups de cœur livres, mercredi 23 à 17h, le fameux Blowout 1981, film américain avec John Travolta, film de Brian De Palma. The Far Country, ça c'est dans le cycle western, je vous le conseille vivement. C'est mercredi également à 20h. Avec James Stewart, Ruth Roman, c'est un film américain de 1954. Et cette séance sera suivie d'un échange avec un des responsables du cinéma d'Anguin. Voilà, donc tout ça, c'est de quoi vous procurer de belles sensations. Et bien maintenant, mes coups de cœur théâtre se sont portés vers le Lucernaire pour Un Monde Fou. C'est du théâtre contemporain. En gros, c'est Sam, donc un acteur au chômage, qui va arrondir ses fins de mois comme standardiste aux réservations d'un grand restaurant. Voilà, donc c'est une pièce de Becky Maud, et interprétée par le fameux Eric Métayer. On va voir tous ses interlocuteurs au téléphone, le personnel du restaurant, et c'est vraiment une galerie de personnages qui décrivent ce monde. Ce monde saisissant, en lien d'ailleurs avec l'actualité. Un monde fou au Lucernaire, c'est à 21h du mardi au samedi et dimanche, là vous pouvez y aller dimanche à 18h. Dernier coup de cœur théâtre, toujours au Lucernaire, là c'est jusqu'au 10 novembre, et c'est Truffaut, la correspondance Truffaut. Donc mis en scène par Judith D'Alezzo. Et là, c'est un spectacle, c'est un portrait en fait, un peu de Truffaut, voilà. On va voir par petites touches comme ça, à travers un choix de lettres, ce qui chez lui nous a bouleversés, nous a remués. Alors, vous verrez, on y parle d'enfance, de cinéma, de politique. Et voilà, et de toute sa vie. C'est donc Truffaut, correspondance, c'est un peu notre Truffaut, celui qui nous parle, celui qui raconte. Et voilà, on voit un peu tout son entourage. C'est des très très belles lettres justement sur la vie de ce cinéaste. Et voilà, je trouve que c'est une jolie opportunité pendant ces vacances d'aller voir ce spectacle. C'est au Lucernaire, je vous le disais, à 19h. Eh bien voilà, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours pour Toute la culture que j'aime sur IDFM Radio. Et vendredi prochain, vous retrouverez Marie-Laure. À très bientôt et bon week-end.
IDFM Radio, le média valdoisien. Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Jeudi 31 octobre, rendez-vous avec IDFM Radio pour une soirée Halloween à la salle des fêtes d'Anguin-les-Bains au 18 avenue de Ceinture. De 18h30 jusqu'à 23h, venez danser avec vos plus beaux déguisements en compagnie de votre équipe préférée. Pour l'occasion, DJ, gourmandise, atelier magique, diseuse de bonne aventure, buvette et tant d'autres surprises vous attendent. Un événement pour toute la famille. 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Billetterie sur place.